Du lundi au vendredi sur RFI à 7h-ci, place au journal en français facile.
Le journal
en français facile, Adrien Delgrange.
Bonjour à toutes et à tous. Il est 16h en temps universel, 18h à Paris. Nous sommes le lundi 16 septembre dans ce journal. Tout d'abord aux États-Unis. Retour dans un instant sur cette tentative ou pas d'assassinat de Donald Trump ce week-end. Dans ce journal aussi, l'Allemagne qui se barricade. À partir d'aujourd'hui, l'Allemagne renforce le contrôle de ses frontières. En Europe, Thierry Breton, le français, claque la porte de la Commission européenne. Il est remplacé par un proche d'Emmanuel Macron, Stéphane Séjourné. Puis nous serons sur le continent africain au Niger. Deux attaques en deux jours, au moins 15 morts. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Donald Trump désigne Kamala Harris et Joe Biden comme les responsables de la tentative d'assassinat qu'il aurait subi ce week-end, ou plus précisément, pour l'ancien président américain, la rhétorique. Les mots employés par Joe Biden et Kamala Harris ont fait que quelqu'un a tiré sur lui, c'est ce qu'il vient de déclarer sur une chaîne américaine Fox News. Entre-temps, nous apprenons que le suspect, un homme de 58 ans arrêté dimanche près du golfe de Donald Trump, ce suspect dans cette enquête sur cette tentative d'assassinat présumée vient d'être audiencé par un juge. Il en ressort inculpé pour détention illégale d'armes à feu. Alors, tentative ou pas d'assassinat de Donald Trump, Abla Jounaïdi, bonsoir.
Bonsoir.
Une question se pose, comment sécuriser l'ancien président ?
Alors la question avait déjà été soulevée après la première tentative d'assassinat contre Donald Trump. C'était lors d'un meeting en plein air. Les policiers du FBI avaient été très critiqués, une enquête ouverte et le dispositif de sécurité entourant l'ancien président renforcé. Même si à nouveau, ce dimanche, le pire a été évité, une nouvelle enquête devra déterminer, dire comment un tueur potentiel a pu s'approcher de l'ancien président. À entendre les experts du renseignement, la passion de Donald Trump pour le golf est un cauchemar du point de vue de la sécurité. Sur ce type de terrain, un tireur peut agir sur des centaines de mètres à la ronde autour de la cible, le président. Le tireur peut se cacher derrière des arbres et des arbustes, comme cela s'est en effet passé hier. Il est difficile de sécuriser tout le périmètre à chaque fois qu'un président veut se consacrer à sa passion de la petite balle blanche. Lorsque Barack Obama jouait à l'époque où il était encore président, c'était sur un terrain militaire forcément sécurisé. Le golf de Donald Trump, lui, est cerné de trois routes à forte circulation. Le shérif du comté l'a dit hier lors d'une conférence de presse. Il est impossible de fermer toutes ces routes.
Abla Jounaïdi, dans votre journal en français facile et dans la prochaine édition à 19h, heure de Paris, nous serons aux États-Unis. L'actualité au Niger et ses deux attaques hier dimanche dans les régions de Dosso et de Tillaberi font plusieurs morts. La première concerne le poste de police et de douane de Tounouga, situé tout proche du Bénin et du Nigeria. Les bureaux de la police et de la douane ont été incendiés. La seconde attaque concerne une position des forces armées dans la préfecture de Torodi. Pas de bilan officiel pour le moment, mais des sources sécuritaires parlent d'au moins 15 morts, des civils et des militaires. Le cri du cœur de la prix Nobel de la paix, Narges Mohammadi, appelle à sortir du silence et de l'inaction face à l'oppression des femmes en Iran. J'exhorte les institutions internationales et les peuples à agir. C'est de la prison où elle est en Iran que Narges Mohammadi a pu envoyer ce message à des proches qui l'ont eux-mêmes relayé via les réseaux sociaux. Message envoyé 2 ans exactement après la mort de Mahsa Amini qui avait déclenché en Iran le mouvement intitulé « Femmes, vie et liberté ». Les victimes parlent d'un cauchemar et pourtant la tempête Boris est bien réelle. Depuis maintenant 3 jours et 3 nuits, plusieurs pays d'Europe centrale sont balayés, inondés par cette colère du ciel. Au moins 15 morts, des milliers de sinistrés et d'immenses dégâts encore difficiles à estimer. La Roumanie, l'Autriche, la République tchèque et la Pologne sont concernées. Des pluies incessantes s'abattent depuis vendredi sur ce pays. Et le calvaire n'est pas fini, d'après les scientifiques, car les rivières et les fleuves vont encore gonfler dans les prochains jours. Davantage de policiers et de douaniers aux frontières allemandes. À partir d'aujourd'hui, 16 septembre, l'Allemagne renforce les contrôles à ses frontières. Décision prise au nom de la lutte contre l'immigration illégale pour tenter d'empêcher l'arrivée de clandestins. L'Allemagne partage ses frontières avec 9 pays, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Pologne, la Suisse, la République tchèque et la France où 14 points de passage sont concernés par ce renforcement de policiers. À Kiel, ville frontalière allemande située près de Strasbourg, reportage RFI de Wilhelm Munoz-Boileau.
Au bout du pont de l'Europe qui relie Strasbourg à Kiel, une dizaine de policiers postés au bord de la route scrutent attentivement les véhicules et leurs passagers. Mais les contrôles ne sont pas systématiques, comme l'explique Dieter Hout, porte-parole de la police allemande.
On n'arrête pas chaque voiture ni chaque personne qui traverse la frontière. On procède à des contrôles ciblés et on fait en sorte de ne pas entraver le passage des travailleurs frontaliers en évitant de créer des bouchons.
Ce sont surtout les bus et cars de tourisme qui sont visés, car c'est le moyen de transport privilégié par les personnes qui cherchent à entrer illégalement en Allemagne. Malgré le retard qu'ils occasionnent, ces contrôles sont une bonne chose, selon cette passagère d'un Flixbus qui habite en Allemagne mais séjourne régulièrement en France.
Il faut quelque chose comme ça. Parce que les bandits, ils sont partout, hein.
Des effectifs sont également déployés en gare de Kiel et dans le tram en provenance de Strasbourg. En uniforme mais aussi en civil, les policiers opèrent jusqu'à 30 km après la frontière. Mais cet habitant de Kiel doute de l'efficacité de la mesure, rappelant que des contrôles renforcés ont été mis en place dès le mois de juin pour l'Euro de foot et les JO de Paris, ce qui n'a pas empêché les récents attentats en Allemagne.
Ce sont les contrôles aux frontières extérieures de l'Union européenne qu'il faut renforcer, pas celles avec nos voisins.
Le renforcement des contrôles aux frontières entre la France et l'Allemagne est en vigueur pour une durée d'au moins 6 mois renouvelable. Wilhelm Munoz-Boileau, de retour de Kiel, RFI.
L'actualité européenne marquée aussi aujourd'hui par la démission de Thierry Breton qui quitte la Commission européenne. Le français Thierry Breton a annoncé cette décision aujourd'hui, à effet d'ailleurs immédiat, dans une lettre envoyée à sa présidente Ursula von der Leyen. Aussitôt, Emmanuel Macron a proposé de le remplacer par le ministre démissionnaire des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné. En France, les étudiants font leur rentrée aujourd'hui. C'est la rentrée universitaire, une nouvelle année d'apprentissage marquée aussi par l'augmentation du coût de la vie. Pour la FAGE, la Fédération des associations générales étudiantes, elle publie aujourd'hui un rapport et pour elle, la rentrée universitaire coûte plus cher que l'année dernière. En moyenne, pour un étudiant, la rentrée coûtera près de 3 200 euros, une hausse de près de 4% par rapport à l'année dernière, soit une augmentation de 85 euros en un an. Alors étudier dans les universités coûte de plus en plus cher. Comment font les premiers concernés? Aram Beng a posé la question à quelques étudiants.
Personnellement, je sais que ça en impacte plus que d'autres, mais moi, par exemple, je vais devoir trouver un job. Pour subvenir à tous mes besoins, bon, moi j'ai un peu de chance parce que je vis chez mes parents, mais pour tout ce qui est sortie et tout, je vais devoir trouver un job pour pouvoir un peu profiter de la vie étudiante comme il se doit, quoi. Si je taffe pas, en fait, j'aurais pas le choix. Je pourrais plus sortir, je pourrais juste avoir les cours, quoi. Voilà.
C'est souvent papa et maman là qui me prennent en charge. Et je suis au CROUS en plus, donc université résidentielle pour les étudiants démunis. Je sais que c'est un peu compliqué, mais j'ai la chance d'avoir des parents qui sont toujours derrière moi, qui ont pris l'initiative de se dire « bon, on va jusqu'au bout des études ». C'est compliqué pour tout le monde, mais ma mère a dû reprendre son travail.
Et vous travaillez, vous aussi, joindre les deux?
Oui, absolument. Oui. Je travaille pour justement pouvoir aider mes parents. Et j'ai envie de sortir, tout comme n'importe quelle étudiante. Et donc, du coup, ça évite que ce soit mes parents qui prennent en charge. Je fais un travail entre 18h et 20h par semaine.
Un propos recueilli par Aram Beng à l'occasion de cette rentrée des étudiants en France. Ainsi se referme ce journal en français facile que vous pouvez lire et écouter à tout moment. Un site internet françaisfacile.rfi.fr. Radio Foot International est à suivre sur la radio.